Bonjour Julie, bonjour à tous. Il a fallu que Jean-Claude Juncker se rende à Washington pour raisonner Donald Trump. Finalement, le patron de l'exécutif européen obtient une suspension des tarifs douaniers particuliers appliqués sur l'acier et l'aluminium. Les Européens devront pour cela acheter plus de soja. Nous appellerons notre correspondant.
La violence est partout et vise tout le monde. Au Nicaragua, une étudiante témoigne ce matin sur France Culture, alors que la répression a fait près de 300 morts en 3 mois dans le pays.
Dans cette édition encore, nous irons dans les couloirs de l'Assemblée nationale où les députés français s'écharpent sur le fonctionnement de la commission d'enquête. Emmanuel Macron en profite pour reprendre la main sur la communication élyséenne à propos de l'affaire Benalla. Coup de chaud donc à l'Assemblée et surtout dans les rues, les champs, dans les maisons. La canicule touche aujourd'hui 18 départements et elle provoque un pic d'ozone en région parisienne. Donald Trump et Jean-Claude Juncker vont-ils mettre un terme à la guerre commerciale? Après une rencontre de 2 heures hier soir à Washington, le président américain et le patron de la Commission européenne ont annoncé un accord sur les tarifs douaniers. Et Washington renoncerait ainsi à taxer l'acier et l'aluminium européens en échange d'une augmentation des importations de soja américain vers l'Europe. Nous rejoignons outre-Atlantique notre correspondant Marco Volter. Marco, le locataire de la Maison Blanche, semble donc finalement revenir sur ces menaces qui duraient depuis des mois.
Donald Trump a renoncé aujourd'hui à sa rhétorique agressive pour au contraire annoncer à côté de Jean-Claude Juncker une nouvelle phase dans les relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Les deux hommes ont dit tout à l'heure avoir conclu un accord, c'est notamment d'aller vers zéro tarif douanier dans leurs échanges industriels, exception faite du secteur automobile. De son côté, Donald Trump a promis de résoudre la question des barrières douanières que les États-Unis ont décidé d'imposer sur l'acier et l'aluminium. Évidemment, on attend de voir ce que résoudre voudra dire précisément. En contrepartie, Trump a notamment assuré, et c'est là un message aux agriculteurs américains actuellement en difficulté, que l'Union européenne allait immédiatement augmenter ses importations de soja. Et puis Donald Trump a annoncé la mise en place d'un groupe de travail composé de, je cite, de gens très intelligents. Avant de conclure, c'était une grande journée pour le libre-échange.
Marco Volter est dans la foulée. Hier soir, l'Allemagne, par la voix de son ministre de l'économie, a salué toutes ses décisions, y voyant une percée susceptible d'éviter une guerre commerciale et de sauver des millions d'emplois. Une série d'attentats revendiqués par le groupe État islamique a fait 215 morts, près de 180 blessés hier en Syrie. Les secteurs visés sont contrôlés par le gouvernement de Bachar el-Assad dans le sud du pays. C'est l'un des bilans les plus lourds depuis le début de la guerre en 2011. Et puis plus à l'ouest cette nuit, l'aviation israélienne a mené un raid aérien. Une réponse au tir de 2 roquettes sur le plateau du Golan à la frontière entre les deux pays. Peu de témoignages nous parviennent du Nicaragua en ce moment où le président Daniel Ortega continue de réprimer dans le sang la contestation. Il est de plus en plus isolé sur la scène internationale, Washington ayant demandé des élections anticipées hier matin. Car sur place au Nicaragua, la situation est intenable. Preuve en est ce témoignage sur France Culture ce matin d'une jeune Nicaragouienne de 28 ans, que nous appellerons Maria. Hugo Charpentier a pu la joindre par téléphone. Elle a pris part au mouvement dès le début de la contestation en avril.
C'était il y a 3 mois. Le gouvernement engage une réforme de la sécurité sociale, une réforme impopulaire qui provoque une vague de contestation dans tout le pays. Le peuple descend dans les rues et dans la capitale, à Managua, Maria est présente dans le cortège.
On a commencé à se manifester et tout de suite, le gouvernement a déployé ses forces paramilitaires pour tabasser les gens qui manifestaient.
Dans le pays, l'atmosphère est alors électrique. Elle deviendra insoutenable à l'issue de la fameuse manifestation du 30 mai dernier. Une énième colère populaire réprimée dans le sang, 11 morts.
Toute la foule a été attaquée par des tirs de snipers. On a dû courir, se cacher. J'ai vu des morts passer, qui a été un massacre.
Depuis ce jour, les habitants restent le plus souvent cloîtrés chez eux.
On ne sort pas. Tu le vois dans la ville, c'est une ville fantôme la nuit. Il n'y a personne et la journée, ils restent chez eux, ils vont faire des courses, mais c'est plus comme avant.
Car selon Maria, la violence est désormais aveugle. Elle peut frapper n'importe qui, n'importe quand.
Au début, la violence était plus contre les universitaires et contre les étudiants surtout, parce que c'est eux qui ont mené le mouvement. Mais après, c'est tout le monde. En ce moment, c'est à n'importe quel moment de la journée, dans les rues, tu peux te faire tirer dessus par des paramilitaires, par des policiers.
Aujourd'hui, les manifestations sont plus rares, mais la détermination reste intacte, selon la jeune femme.
Je vois des mères avec des enfants qui vont je trouve qu'ils sont très déterminés malgré la violence, parce que aujourd'hui, sortir dans une manifestation, ça veut dire que tu peux mourir. Les gens sont prêts à prendre ce risque pour la liberté du pays.
Et la liberté du Nicaragua, selon Maria, passe d'abord par le départ de Daniel Ortega.
La répression des manifestations au Nicaragua, rappelons-le, a fait près de 300 morts en 3 mois. La Cour européenne des droits de l'homme demande à la Russie d'administrer des soins appropriés au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Il est emprisonné en Russie et en grève de la faim depuis plus de 2 mois.
Vous écoutez France Culture, il est 7h05. Emmanuel Macron se dit fier d'avoir embauché Alexandre Benalla et il fustige ceux qui, dit-il, cherchent un procès politique.
Oui, fier parce que c'était quelqu'un, Alexandre Benalla, qui était dévoué et qui avait un parcours différent selon le chef de l'État. Il a répondu à nos confrères de France Bleu Béarn hier soir lors d'une visite à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Emmanuel Macron qui critique également effectivement les bêtises de la presse et les réactions disproportionné de certains dans cette affaire qui est celle d'un homme, dit-il, et seulement d'un homme. Affaire révélée quelques jours après l'euphorie de la Coupe du Monde de football, Emmanuel Macron s'interroge donc également sur le calendrier choisi. Pendant ce temps, à l'Assemblée et au Sénat, les auditions se poursuivent dans cette affaire. Sénat qui recevra le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, ce matin. C'est le bras droit d'Emmanuel Macron. Assemblée qui, elle, n'arrive pas à se mettre d'accord sur le nom des personnes à interroger aujourd'hui. Les députés de la majorité, par exemple, ne veulent pas convoquer Alexis Kohler et les relations entre parlementaires se tendent, Bastien Roch.
Au sortir de l'audience, Philippe Gosselin ne cache pas son agacement. Le député Les Républicains accuse la majorité de bloquer l'audition de certains témoins par la commission d'enquête de l'Assemblée.
Il nous faut pouvoir interroger le secrétaire général de l'Élysée, mais la majorité s'arc-boute et le refuse. À 13h ce mercredi, nous n'avons aucune, je dis bien aucune, audition de programmée. La majorité bloque dans tous les sens. C'est pas très transparent, c'est pas concourir à la manifestation de la vérité. Ça s'appelle faire de l'obstruction et ça, il faut le dénoncer.
C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé Nicolas Dupont-Aignan à claquer la porte en pleine audition. Le président de Debout la France n'hésite pas à parler de mascarade.
Je pense que cette commission d'enquête tourne à la farce. Et moi, j'ai pas envie de perdre mon temps à jouer un rôle. On voit bien qu'on nous balade, on voit bien qu'on ne peut pas auditionner qui on veut. On voit bien que le président donne un certain mépris à l'ensemble des élus, de la nation et aux Français. Voilà, on va arrêter cette farce.
Les représentants de la France insoumise aussi déplorent de ne pas pouvoir entendre d'autres témoins. Ils espèrent toujours qu'Emmanuel Macron viendra s'expliquer devant la commission. Notamment Hugo Bernal ici, qui a peu goûté les propos du président la veille.
On continue de demander à ce que le président de la République, d'autant plus que maintenant il se sent responsable, qu'il vienne devant la commission d'enquête s'expliquer. On dirait un caïd du quartier qui vient vous expliquer qu'il a fait quelque chose de pas bien mais qu'il est intouchable. J'espère qu'il changera d'avis, notamment peut-être sous la pression de l'opinion publique.
En face, la majorité ne semble pas décidée à céder. La situation reste donc pour l'instant bloquée.
Le chômage repart en légère hausse au deuxième trimestre en France, plus 0,2% par rapport au printemps, mais plus 1,5% tout de même par rapport à l'année dernière à la même période. L'Île-de-France et 10 départements situés sur une ligne allant du nord jusqu'à l'Ardèche vont souffrir de la chaleur jusqu'à demain. Canicule annoncée avant une accalmie ce week-end, nous y reviendrons dans un instant. La région parisienne qui souffle donc sous la chaleur, sous la pollution aussi, les particules fines stagnent. Dans la capitale et dans sa proche banlieue, les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler depuis hier. Ceux qui ont des vignettes critères 4 et 5. Et ça ne s'arrête pas là, Laura Dulieu.
Alors ce n'est pas la seule mesure mise en place contre la pollution. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes doivent contourner l'agglomération parisienne. La vitesse est aussi réduite sur les grands axes franciliens. Le stationnement résidentiel est gratuit et le forfait journalier anti-pollution pour les transports en commun est activé. Car depuis lundi, la concentration d'ozone dans l'air d'Île-de-France dépasse le seuil recommandé. C'est d'une part à cause des oxydes d'azote, des particules polluantes qui viennent en grande partie du trafic routier, et d'autre part à cause des fortes chaleurs qui n'arrangent rien. Avec toutes ces mesures, la préfecture de police espère ainsi réduire de 32% les émissions d'oxyde d'azote. Mais ce pic de pollution ne concerne pas que la capitale. Le gouvernement veut généraliser le système des vignettes critères. 14 agglomérations sont concernées. Ce seront des zones dites à faibles émissions. Selon l'exécutif, elles devraient permettre de réduire de 12 à 15% les émissions de gaz polluants d'ici 2022. Et l'urgence est avant tout sanitaire. 48 000 personnes meurent prématurément désagréments chaque année en France à cause de la pollution de l'air.
Une pollution due, je vous le disais, à la chaleur qui stagne et aux particules fines. Ce jeudi, il sera encore chaud et ensoleillé. 18 départements sont en vigilance orange canicule en Île-de-France et sur les Hauts-de-France, ainsi que sur une bande qui va de la Côte d'Or à la Drôme. Quelques averses orageuses sont attendues en fin de journée sur la Normandie. Et donc ce matin, il fait déjà 27 degrés à Rennes, 29 à Lille, Besançon, Bordeaux, Lyon, 31 ce matin à Paris, comme à Perpignan, et cet après-midi, comptez jusqu'à 38 degrés sur la vallée du Rhône.